Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on va discuter avec Jérémy Royaux, salut.
Salut.
Qui est avec moi virtuellement via Skype. Et on a un peu des news à discuter avec vous. C'est un peu un épisode un peu différent de l'habitude, mais j'ai beaucoup de news sur différents sujets. Donc, comme c'était difficile de le faire avec un invité, je me suis dit que Jérémy allait faire le rôle de l'invité aujourd'hui. Voilà, ouais, il y a pas mal de choses qui se passent autour de moi en ce moment, et je pense que ça vaut la peine d'en parler sur le balado. Et alors, le premier truc dont on voulait parler, c'était que on aura donc, on approche de l'épisode 300 du balado. Hein. Félicitations à nous. et des 6 ans, ça fait 6 ans que je fais le podcast en fait. Et donc, on est en train un peu de préparer les différentes célébrations auxquelles on a réfléchi. Hein, tu dois faire une petite interview de Nicolas Gauvry, on avait dit, et puis différentes choses dans ce style-là. Et donc le 15 août, on aura une soirée à Scepticopub avec. Où on fera un épisode live. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait ça. Comme on a ces petits copains, c'est un peu toujours ça. Mais je me suis dit, pour les 6 ans, on va quand même mettre les grands plats dans les grands. Et donc, pour le 15 août, pour les 6 ans, on aura toi, Jérémy, on aura Thomas Guillaume et moi. Et on enregistrera un épisode live avec du public, évidemment. Et donc, si vous êtes fan du balado. Et que vous n'êtes. Bon, évidemment, si vous voulez nous rencontrer, vous pouvez venir en fait techniquement à n'importe quelle soirée de Scepticopub en Irlande.
Tout à fait.
On est toujours là. C'est pour ça. C'est pour ça finalement que j'ai jamais fait d'épisode. J'ai jamais fait d'épisode live à cause de ça, mais je me dis, allez, pour une fois. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent faire le déplacement spécialement pour venir célébrer. Je dirais qu'il y aura une ambiance un peu plus festive que d'habitude. Et puis. Je boirai un peu plus d'alcool que d'habitude.
Voilà. On payera un verre aux gens qui viennent.
Là, tu t'engages. Hein. On se retrouve avec 150 personnes. S'il y a tous les Parisiens qui viennent, on est mal. Cool. Et voilà, donc c'était pour annoncer ça. Donc notez dans vos agendas si vous êtes libre, si vous êtes dans le nord de la France ou enfin, je ne sais pas, il y a des gens qui écoutent un peu partout. C'est le 15 août. C'est un samedi. Et donc, si vous
voulez. Et au niveau du thème, donc on a pas encore arrêté le choix, mais ça sera sur un. Probablement, on va discuter d'un article scientifique, mais qui n'a pas encore été choisi.
C'est un thème à la version Thomas Guillaume, c'est-à-dire on va prendre un article qui a traduit pour Septum et on va un peu le commenter. Quoi. Évidemment, il y aura plein de questions-réponses aussi, donc si vous voulez venir me poser des questions, enfin voilà, je suppose que les gens auront des questions sur l'histoire du balado et tout ça, on verra quoi. Ce sera l'occasion d'en discuter. Et tant qu'on y est au niveau des Scepticopub, il y a pas mal de. Ça bouge beaucoup de ce côté-là, donc il y a eu Paris Scepticopub qui a été créé là.
Tout à fait, et qui viennent de programmer leur premier événement d'ailleurs.
J'ai vu l'annonce de l'événement aujourd'hui. C'est Guillaume Vendée qui s'occupe de ça. Je pense l'avoir déjà eu sur mon... Ah oui, non, c'est avec des trucs de jeux de rôle que je fais avec lui en podcast. Oui, donc je l'ai jamais eu, eu sur le podcast Scepticisme Scientifique, mais enfin je le connais bien puisqu'on fait des jeux de rôle ensemble. C'est lui qui est un peu... qui est un peu derrière ça, je pense. Mais c'est chouette. Et il a une superbe affiche, en plus. C'est Nicolas Gauvry en première invité.
Tout à fait. Et donc, pour les infos, donc ils ont prévu ça le 1er juillet à 20h30. Et donc, c'est à Paris, au bar de l'échelle. Ouais, vous trouverez les infos sur les groupes habituels, de toute façon.
Oui, je pense que si vous voulez y aller, il faut mieux signaler que vous comptez y aller, comme ça... Ils savent qu'il y aura du monde, parce que sinon ils vont être stressés, ils vont dire il n'y aura personne.
Tout à fait.
Pour la première, c'est toujours... Une première, c'est toujours un peu plus stressant, mais...
Et,
cool. Oui, sur leur affiche, ils mettent bien... si vous venez consommer au bar, comme ça loue la salle. Ça, c'est pas mal de le dire, parce que pour les gens qui ne sont jamais allés à un Scepticopub, maintenant que c'est en train de se, comment dire, de se diversifier les lieux en francophonie en tout cas. C'est vrai que chez nous aussi c'est comme ça. Hein. Si vous venez à Bruxelles, ces petits copains, que ce soit en bas de consommer, le café est content. Et si le café est content, on a des réductions au niveau de la salle. Si le café est très content, on a la
Tout à
salle
fait.
gratuite. Donc... C'est un bon plan. Et alors, il y a aussi les Flamands, ouais, qui veulent faire.
Oui, tout à fait. Donc, il y a un deuxième lancement d'un nouveau Sceptics Op-Up, donc qui est lancé par les anglophones, qui s'appelle Flanders Sceptics Op-Up, si je ne me trompe pas. Et bon, là, je ne sais pas s'il y a un événement prévu déjà, mais ils ont lancé le groupe, en tout cas, il y a 3 jours. Et donc, vous pouvez trouver le groupe en tapant Flanders Sceptics in the Pub dans le mode de recherche de Facebook. Voilà.
Oui, en fait, les échanges que j'ai eu avec eux, puisque j'ai eu des échanges un peu avec Guillaume Vendée pour Paris, et puis Franck Verhoeven, que lui, j'ai interviewé sur le balado il y a des années. Dans les deux cas, oui, donc les Flamands, ce qu'ils m'avaient dit, c'est qu'ils veulent avoir différents lieux, donc ils envisagent Anvers, Anvers-Leuven, et peut-être encore un troisième lieu, je suis plus sûr. Donc c'est pour ça qu'ils...
Ouais, ça va se
Ouais,
déplacer.
c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis un nom de ville devant le nom, ils ont juste mis Flanders. Ce qui a apparemment généré beaucoup de discussions chez eux parce qu'ils n'avaient pas envie de s'appeler Flanders. Mais c'est vrai que, en fait, je comprends leur problème. Je me voyais. Allez, si je créais ces petits copains en Belgique, moi je me voyais mal mettre Wallonie à ces petits copains.
Ouais,
Ça fait très
c'est clair.
séparatiste.
Ça fait un peu séparatiste, ouais, tout à fait, un peu communautariste
Mais eux,
aussi.
ils avaient le problème qu'ils n'avaient pas. Enfin, ils ont plusieurs villes, ils veulent faire plusieurs villes. Et voilà, nous on existe, donc ils devaient quand même bien distinguer. Ils devaient mettre quelque chose devant, mais quoi, ils pouvaient pas mettre Belgium à cause de nous. En fait, c'était un peu piégé, donc ils ont mis Flanders. Mais. On va créer un Sceptic Pop-Up à Namur, on va s'appeler Wallonie à Belgique. Mais ça, c'est quand même un commentaire à faire sur aussi la popularité du scepticisme en Flandre, hein, parce que je pense que les Flamands sont... Parce que nous, je nous vois quand même mal créer un truc encore à Liège ou à Namur, ou en termes de popularité, quoi.
C'est déjà difficile de se faire connaître et de remplir les salles quand tu lances un projet chez nous. Mais c'est vrai que chez eux, c'est beaucoup plus actif, le
Parce que ce
scepticisme.
qui m'a vraiment surpris, c'est qu'ils avaient déjà, pour ceux qui savaient pas, Huttdenkelenk, enfin mon flamand est complètement foireux donc je sais pas le prononcer, mais c'est pas grave. Ils avaient déjà quelque chose comme ça qui avait un nom original quoi. Mais puisqu'en fait, bon, encore une fois pour les auditeurs qui savent pas, il y a deux grandes fédérations entre guillemets de sceptiques en train de boire des verres quoi. Il y a Skeptics in the Pub qui est plutôt britannique et puis il y a Drinking Skeptically qui est plutôt américain. En résumé quoi. Donc les Flamands avaient fait Huttdenkelenk, qui est plutôt. Bah, donc j'avais choisi un nom original, mais c'est vrai que là ils ont eu qui? Ils ont eu. Ils ont chaque fois eu des grosses stars, quoi. Donc cette année ils ont eu Richard Dawkins et le physicien dont le nom m'échappe. Mais enfin ils ont chaque fois eu des grosses stars. Hein. Ils ont eu Chris French la première année sur le paranormal. Et donc apparemment, moi je me dis tiens, ils ont Sceptic Op-Up, c'est leur version, mais ils ont que des grosses stars et c'est chaque fois en anglais, quoi. Mais apparemment. Et ça, c'était organisé par Martin Broody, qui est un philosophe de Leuven, qui publiait avec Massimo Pigliucci sur l'épistémologie, quoi. C'était quand même lui la cheville ouvrière du bazar, quoi. Et donc, apparemment, là, ils voulaient faire quand même quelque chose de plus populaire, enfin, moins élitiste. Enfin, en tout cas, le problème, c'est la langue, quoi. Si tu organises tout le temps en anglais, tous les gens qui parlent pas anglais peuvent pas y aller, quoi. C'est ça le truc, quoi.
Ouais, ça c'est toujours la difficulté.
Et c'est vrai que tant que j'y suis, à parler de Sceptico Pub, c'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Mais donc en Angleterre, c'est organisé par Simon Perry, enfin bon, qui a un site web. Bon, c'est très informel, hein, c'est très grassroots comme on dit. Mais voilà, si jamais vous voulez organiser un Sceptico Pub quelque part, je sais pas, Sceptico Pub Montpellier ou Sceptico. En gros, il n'y a pas grand-chose comme obligation à avoir, hein. Vous êtes très libre de le faire. Enfin, je veux dire, sur la manière dont vous le faites, etc. Mais grosso modo, la règle informelle, absolument pas gravée dans le marbre, c'est que bon, vous envoyez quand même un petit mail à Simon Perry. Je peux vous donner son email si vous êtes intéressé, vous me contactez. Et puis, il vous rajoute dans le site web, quoi, dans la liste. Et il a un petit document qu'il envoie, un petit PDF avec des conseils sur comment créer un Septicopub. Et en gros, sa seule condition pour être dans son circuit, bah, c'est de s'appeler Skeptics in the Pub en anglais. Tout le monde a le même nom et le nom de la ville devant, quoi. Donc si vous, je sais pas, si vous le faites à Montpellier, vous devez l'appeler Montpellier Skeptics in the Pub, quoi. Si vous voulez pas faire.
Et ils fournissent donc la page web pour les scepticismes de peuple
Ouais, c'est ça.
après.
Bon, si les gens ont déjà googlisé le nom, enfin la page web de Bruxelles Sceptico in the Pub, c'est leur site web, hein. Donc en fait, c'est un site qui est complètement automatisé. Vous recevez les codes et puis vous avez juste à taper les événements. Enfin, c'est des filiers. Voilà, vous remplissez juste les événements, quoi. Bon, c'est un système qui roule bien, moi je trouve. Voilà, quoi. En Angleterre, il y en a plein,
Tout à fait.
il y en a au moins 60, je crois. Et maintenant, il y en a. En fait, le problème, c'est que j'ai pas de liste dans le monde, mais je sais. J'ai regardé l'autre jour, mais j'ai vu qu'il y avait Berlin. Enfin, il y en a quand même toute une flopée qui se trouve en Europe. En Europe, ça a quand même tendance à. Et les gens en Europe ont plus tendance à faire Skeptico-Pub parce que, bon, c'est comme moi au départ, on est quand même plus près de l'Angleterre que Drinking Skeptically, donc. On est plus près de
Ouais, tout
l'Amérique.
à fait. D'ailleurs, je vois que Paris Sceptics in the Pub, ils ont créé une page aussi qui est déjà disponible sur le site officiel
Ah oh,
du
oui, j'ai
réseau.
pas vérifié, mais j'avais donné les infos à Guillaume Vendée, donc je suppose qu'il.
Ouais.
Voilà. Comme ça, si jamais il y a des envies, des désirs de créer des nouvelles associations, enfin des nouveaux groupes Sceptics in the Pub, les gens savent un peu comment faire. Ça, c'est la partie facile, hein. La difficile, c'est de trouver un endroit et avoir des gens qui viennent.
Ouais, ça c'est autre chose.
Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que si on les Sceptico Pub, on se soutient les uns les autres, hein. C'est vrai que les anglophones, ils retweetent pas mal les annonces, hein, qu'on a sur Twitter, etc.
Ouais,
Mais
ouais,
donc c'est vrai que si jamais il y a des autres Sceptico Pub qui s'organisent, surtout francophones, j'aurais d'autant plus l'envie d'en faire la promotion, parce que moi je suis pour faire la promotion des trucs en Angleterre, c'est pas trop. Bon, la plupart, bon, dans un podcast francophone, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais voilà quoi, s'il y a des choses en France qui se font et comme ça dans le monde francophone, ça j'en parlerai avec plaisir sur le balado, quoi. Voilà. Alors le deuxième sujet qu'on voulait couvrir, c'était le bouquin OVNI en Belgique.
Ouais, donc OVNI en Belgique, contribution sceptique. Donc il y a un livre qui est donc écrit par un collectif, donc qui contient, si je me trompe pas, Renaud Lecuet, Raoul Robet, Roger Paquet, Jean-Michel Brassard, Nicolas Gauvry et Marc Allais. Et donc bah, le pitch c'est que vous présentez vos arguments dans cet opus de dossier du SO et c'est un recueil qui deviendra incontournable. Voilà. C'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué en tout cas. Alors, peut-être que tu peux un peu présenter cet
Oui, bien
ouvrage.
sûr. Oui. Bah, techniquement, je pense qu'effectivement, je rigolais parce que c'est vrai, mais je pense qu'effectivement, il deviendra incontournable. Donc, en gros, c'est avec les dossiers de Sceptic-OVNI, ça vient de Patrice Seret, hein, que j'ai interviewé quelques fois sur le Palado. Donc, qui est un membre du. Enfin, il est pas. Non, techniquement, il n'est pas membre du CNGU, mais il gravite autour du CNGU, donc l'association ufologique, les comités nord-est du groupement ufologique. Donc, qui est un groupe ufologique sceptique. Il n'est pas membre, mais bon, il fait partie de ce réseau-là, hein, je dirais. Et il a publié un certain nombre de livres sur Ulule. Bon, le but, c'est justement d'avoir des publications papier, pas que du virtuel, quoi. Puisque le CNGU a un site web, mais c'est quand même important d'avoir du papier à certains moments dans une optique de d'archivage et de sauvegarde, etc. Et donc ce livre-là a été fait dans cette optique-là. La façon dont il est né, c'est que j'avais. Comment dire? En fait, Renaud Leclerc a écrit une plaquette qui existait sous forme de PDF, où dans cette plaquette, il y a quelques années, il présentait ce qu'il appelait l'hypothèse oubliée, c'est-à-dire que beaucoup d'observations de la vague belge. Ouais, rapidement, pour les auditeurs qui découvrent un peu tout ça, la vague belge, donc entre 89. 91, 92, il y a eu une grosse vague en Belgique d'ovnis, avec des ovnis triangulaires, dont certains, enfin il y avait des descriptions assez impressionnantes, sont supposés avoir survolé la Belgique. Et donc, il y a eu un certain nombre de. Enfin, la grosse association ufologique belge qui s'appelle la SOBEPS a travaillé sur le sujet. Enfin, c'est pas une grosse association en termes de nombre, mais elle a vraiment fait beaucoup de lobbying des médias à l'époque. Elle s'est présentée comme l'interlocuteur sur le sujet, et donc elle abreuvait les médias avec des informations. Mais c'était une association qui était largement en faveur de l'hypothèse extraterrestre. Et donc, moi j'avais quoi, 14 ans à l'époque? Dans les médias, au JT, etc., dans les quotidiens, on avait toutes sortes d'informations, mais extrêmement pro-hypothèse extraterrestre. Sur cette vague, quoi. Donc, ça, c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque. Et dans les années qui ont suivi, enfin, donc récemment, Renaud Leclerc avait publié cette plaquette qui proposait l'hypothèse oubliée. Et donc, c'était l'idée qu'un certain nombre d'observations, y compris des observations clés de la vague, s'expliquaient par des confusions avec des hélicoptères. Des méprises avec des hélicoptères. Parce qu'en fait, il y a les phares des hélicoptères, ça. Enfin, c'est le fameux truc, un triangle, c'est jamais composé que trois points. Donc, si tu as trois points lumineux, ça te fait un triangle. Hein. Naturellement, notre cerveau comble le vide, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Et donc, l'hélicoptère a des phares lumineux, enfin, ça dépend les types d'hélicoptères, etc. Et donc, il travaillait ça. Et puis, ce qu'il y avait eu, c'est qu'il y avait une réponse, un peu en gros, de la SOBEPS. Hein. J'étais allé à leur colloque sur les 20 ans de la vague. Voilà, où ils disaient les méchants sceptiques, c'est des négationnistes. Enfin, ils essayent de détruire tout le fabuleux travail qu'on a fait sur la vague, etc. Et après cet événement-là, on avait eu des discussions entre nous. Est-ce qu'il faut répondre à leurs réponses, quoi? Et en gros, l'idée générale, c'était plutôt non, parce que ça servait à pas grand-chose, quoi. Enfin, si c'était entretenir la controverse pour la controverse. Parce que, comme toujours, en gros, je veux dire, les gens raisonnables se font leur opinion, quoi. Et les gens déraisonnables se feront aussi leur opinion. Enfin, c'est pas vraiment un débat que tu peux, entre guillemets, gagner, quoi.
Non, tout à fait.
Mais alors, à l'époque, j'étais à une réunion du CNEGU, et puis Patrice Sorel avait évoqué un des problèmes que moi j'avais, c'était pas faire une réponse à la réponse de la SOBEPS, mais. Mon problème à moi, c'était que l'information était éparpillée. C'est-à-dire qu'il y avait la plaquette de Leclerc qui était disponible uniquement virtuellement sur le net. Et puis il y avait toutes sortes de choses. Marc Allais était le premier sceptique belge qui avait publié un contre-argument sur la vague. Hein. C'était la vague belge ou le triomphe de la désinformation. Mais alors, c'était un truc publié à compte d'auteur chez lui. Donc, pour te le proc enfin, moi, pour me le procurer, j'avais dû lui écrire. Il me l'avait photocopié. Enfin. C'est extrêmement difficile à se procurer, quoi. Pour des gens voilà, qui voudraient avoir l'information sceptique sur le sujet. Et puis, moi, j'avais publié des trucs, mais en anglais. Bon, après, avec Nicolas Gauvry, on avait publié un article dans Science et Pseudosciences. Donc là, c'était justement aussi dans cette optique-là. Hein. C'était un article qui faisait 2 pages, mais qui était vraiment un résumé qui présentait voilà l'interprétation sceptique de la vague belge, quoi. Parce que souvent, les sceptiques sont restés, qui sont pas informés sur le sujet, sont restés sur l'idée c'est des avions furtifs américains, quoi. Ce qui, à mes yeux, ne tient pas fort la route. Ça ne veut pas dire qu'il y a absolument. Bon, d'abord, si on veut dire que c'est des avions furtifs, il faudrait avoir la preuve que c'était des avions furtifs. Donc, ça faudrait attendre que ça soit déclassifié. Ça pourrait l'être un jour. On l'a eu pour Roswell. Si un jour l'armée déclassifie ce genre de truc et qu'on découvre qu'il y a eu des cas. Mais le problème, c'est que c'est toujours. S'il y a quelques cas, même s'il y avait quelques cas dans la vague qui s'expliquaient par des avions furtifs, hein, admettons, pour moi c'est pas nécessaire, mais c'est pas impossible, bah ça n'explique pas la vague en fait, parce que il y a eu beaucoup d'autres cas, quoi.
Ouais, donc il y a de toute façon pas mal d'explications possibles qui existent au niveau sceptique
Bah oui, c'est
finalement.
ça, c'est toujours une nébuleuse d'explications différentes qui se combinent pour créer un phénomène, quoi. C'est comme toujours, c'est le problème même généralement pour le phénomène OVNI, les ufologues, ils sont dans une optique de dire on va chercher dans les cas résiduels, et dans les cas résiduels, on doit avoir des cas exceptionnels, enfin, comment dire, des cas qui s'expliquent de manière exceptionnelle, donc ça peut être soit des ovnis, soit enfin des soucoupes volantes, enfin des vaisseaux extraterrestres, ou alors ils vont dire par exemple au GEPAN, ça va être oui, mais peut-être un phénomène de foudre inconnu, quoi. Mais bon, moi j'ai rien contre l'hypothèse de phénomène de foudre mal connu ou inconnu, mais même si c'était le cas, ça expliquerait quoi? 1% des observations, je suis peut-être généreux, quoi.
Ouais.
Alors, mais mettons qu'ils découvrent ce phénomène original de foudre et qu'ils disent ça explique le phénomène OVNI. Ouais, non, ça t'explique 1% des observations. Mais ça t'explique pas le phénomène OVNI. La grande masse du phénomène OVNI, c'est des méprises avec de la lune, avec des hélicoptères, avec de... Donc moi, j'ai toujours un problème avec cette idée qu'il y a quelque chose, un noyau qui expliquerait l'ensemble du phénomène, quoi.
Oui, c'est vraiment un phénomène composite et il y a de nombreuses explications qui ont déjà été bien validées ou démontrées par rapport à cette hypothèse.
Oui, mais moi c'est ce que je dis toujours, ça énerve les ufologues, mais moi je dis le phénomène OVNI, ça fait longtemps qu'il a été expliqué. Hein. C'est juste que les gens n'acceptent pas l'explication. Mais... ça c'est un autre problème.
Oui, mais après il y a toujours des cas qu'on ne pourra pas expliquer par manque d'informations, tout simplement, et ça servira toujours aux gens pour dire qu'il y a peut-être quelque chose à trouver derrière ces cas inexpliqués.
Oui, il y a plus un travail de déconstruction des arguments ou de la logique fallacieuse qu'utilisent les ufologues de ce type-là qu'autre chose. Mais, donc voilà, ça c'est de parler du phénomène OVNI en général, mais la vague Bell c'est vraiment ça, mais en minima, quoi. Hein. C'est-à-dire que, bon, même si on trouvait que qu'un certain pourcentage des cas est expliqué par des avions furtifs, ça n'expliquerait pas vraiment la vague en général, quoi. Voilà, et donc j'étais embêté par cette difficulté d'accès à l'information. C'est vrai qu'on avait déjà un peu amélioré les choses avec mon article dans Science et Pseudosciences, parce que là, bon, c'est dispo sur le site de l'AFIS. Et puis, par la plaquette de Leclay était disponible en PDF sur le site du CNEU. Donc, voilà, quoi, c'était pas... Enfin, c'était quand même pas top, quoi. Donc, on était devant cette situation et j'ai discuté avec Patrice et j'ai dit d'accord, on n'a pas besoin de faire une réponse à la réponse de la SUBEPS, mais ce qu'on devrait vraiment avoir, c'est un truc où l'information, un volume où l'information est vraiment facile à trouver, quoi. Évidemment, je ne mentirai pas au lecteur, hein, c'est pas pour n'importe qui, évidemment, ce volume, hein, c'est assez technique, quoi. Mais j'imagine qu'on est un jeune étudiant et on se dit je ferais peut-être en histoire, par exemple, j'en ai rencontré un qui faisait un doctorat en histoire du phénomène OVNI. Et on veut avoir l'information sceptique sur la vague belge. Ben maintenant il y a un volume, on a tout mis dedans. voilà, l'information s'y trouve, quoi. Ça coûte, moi je l'ai en dollars ici, mais 14 $, donc ça doit faire quoi? Ça fait une quinzaine d'euros, quoi. Avec les frais de port, c'est vraiment pas cher. Et dans ce volume, on a en gros... tout... Bon, je dirais pas qu'on a tout, mais on a vraiment tous les textes clés des sceptiques sur le sujet-là, et donc compilés dans un seul volume, quoi. Donc c'était ça l'idée.
C'est ça l'idée, c'était vraiment de faire un volume de référence qui contient tout ce qui est important.
Voilà,
en fait.
Donc il y a la plaquette de Renaud Leclay. Maintenant, ceux qui ne veulent pas payer 15 euros, elle est toujours disponible gratuitement en PDF sur le site du CNEGU. Hein. De toute façon, Patrice Serret, il ne se fait pas un rond sur tout ça. Juste pour ceux qui nous voient des velléités de business, comme s'il y avait plein de gens qui allaient acheter un bouquin sur les ovnis. Quoi. Ça, c'était... Surtout un bouquin sceptique, en plus.
Ça ne rapporte pas grand-chose.
L'argent, les quelques rares bénéfices qu'il le fait, il les réinvestit dans le hosting du website, du site web du CNEGU, de toute façon. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour l'information. Donc il y a la plaquette de Renaud Leclay, il y a mes articles à moi, donc l'article de l'AFIS avec Nicolas Gauvry, et puis mes articles qui étaient en anglais mais qui ont été traduits en français. Merci à ceux qui les ont traduits en français, parce que c'est pas moi qui les fais d'ailleurs. Et puis il y a les articles de Paquet qui étaient aussi disponibles uniquement en anglais, qui ont été traduits en français et qui sont dedans. On voulait aussi avoir Marc Allais, donc moi j'avais dit à Patrice, essaye de contacter Marc, d'avoir sa plaquette. Moi je voulais même qu'il y ait sa plaquette, les ovnis ou le triomphe de la désinformation. Marc Allais n'était pas trop chaud pour qu'on imprime sa plaquette, pour des raisons que je ne sais pas trop, mais c'était... Et alors il a dit, à la place, je vais produire un article, une contribution originale, quoi. Donc voilà, il y a un article tout nouveau, tout chaud, complètement original. Donc c'est bien, on a quand même quelque chose qui est vraiment inédit dans le volume, qui est un article de Marc Allais où il revient probablement, peut-être pour la dernière fois, parce que voilà, quoi, sur la vague belge. Donc c'est ça le contenu de l'ouvrage.
Ouais, comme tu dis, peut-être pour la dernière fois, parce que je lisais dans un des chapitres, il dit d'ailleurs que À l'époque de la Valbel, il se disait déjà qu'il avait arrêté d'écrire des choses sur le phénomène OVNI, et puis pour finir, il est chaque fois relancé. Mais donc ça, on dirait que ça fait longtemps qu'il dit qu'on peut clôturer la question et qu'il n'y a plus grand-chose de neuf à
Oui.
dire.
Bah, pour être honnête, c'est vrai que Marc Allais, bon, bah, de toute façon, les gens qui le connaissent, on sait bien que c'est un personnage, hein, je veux dire, un personnage haut en couleur. C'est vrai qu'il avait écrit avant le début de la vague belge, une plaquette qui a aussi été distribuée de manière très très limitée, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet ni rien. Maintenant, s'il faisait ça, si on était, il ferait tout ça en PDF et tout sera sur Internet, mais. Bon, voilà quoi, on était dans les années 80, donc il avait fait une plaquette qui c'était les ovnis et la critique historique. Et donc c'était une approche historique du phénomène ovni qui était vraiment pas mal foutue, où il montrait l'origine du phénomène, voilà, sous l'angle de la critique historique. Donc un peu comme les gens qui lisent la Bible de manière, enfin voilà, qui font de la critique et qui voient comment la Bible a été écrite. Parce que c'est un des sujets qui intéresse beaucoup Marc Allais aussi. Il appliquait le même système au phénomène OVNI. Et ceci étant dit, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour des historiens sur le phénomène OVNI, ça c'est clair, quoi. Et donc lui, il déconstruisait. Et après avoir fini cette plaquette, qui était vraiment pas mal foutue à l'époque, bah, ça montrait que bon, derrière le phénomène OVNI, bah, il n'y avait rien, quoi. Enfin, ça montrait le modèle sociopsychologique, mais à travers une approche historique, quoi. Comment était né le phénomène et s'était développé, quoi. Et donc Marc Allais, il a dit, ouais, j'ai fait ça, c'est bon. Donc là, on était au milieu des années 80. Je peux prendre ma retraite. Et bon, et puis évidemment, en 89, il y a la vague belge qui explose, et il a été obligé de rempiler, quoi. Et c'est vrai qu'après son opus sur la vague belge, qui s'appelait donc la vague belge ou le triomphe de la désinformation, ça c'était avant la publication du deuxième volume de la vague, hein, de la SOBEPS, hein, VOB2, Vague d'OVNI sur la Belgique numéro 2. Bah, je pense que après cette plaquette-là, il était un peu dans l'optique, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la vague belge. C'est bon, quoi, on a donné. Bon, encore une fois, le tirage était tellement limité enfin, il touchait pas mal de scientifiques belges, hein, des astronomes qui. Ça a toujours été Marc Allais, en fait, hein. Cette plaquette, elle était plutôt destinée aux quelques astronomes qui se tapaient la tête contre les murs et qui se demandaient ce qui se passait, parce que eux, ils voyaient rien. Il y avait plein d'astronomes amateurs qui ne voyaient rien dans le ciel et qui contactaient Marc Allais en lui disant, mais écoute, moi je suis tous les soirs dehors, je vois rien.
Ouais, d'ailleurs, au moment de la vague belge, finalement, les médias ou les groupes qui étaient très tenants de l'hypothèse extraterrestre ont fait beaucoup de vent sur les cas, mais finalement, tous les scientifiques qui se tenaient un peu au courant n'y voyaient pas grand intérêt ou grand chose de convaincant déjà à l'époque, en fait.
Oui, c'est ça, je pense que ça c'est Marc Allais qui l'explique le mieux, parce qu'il était vraiment, moi encore une fois j'avais 14 ans à l'époque, mais lui il était à fond, il était vraiment dedans, hein. Et c'est vrai que disons qu'il y a la version des faits présentée par la SOMEM, la version des événements, entre autres par rapport à l'intérêt des scientifiques. C'est vrai qu'ils ont présenté une grande conférence où ils ont invité pas mal de scientifiques pour présenter leurs résultats. Et souvent, la SOBEPS dit, ben oui, ça a montré l'intérêt des scientifiques pour notre travail. Mais Marc Allais, qui était en contact avec beaucoup de scientifiques qui sont allés à cette conférence, lui, il raconte toujours que les scientifiques y sont allés et puis ils ont été dépités par ce qu'ils ont entendu lors de la conférence. Et puis ils ont dit, bon, on laisse tomber, c'est du grand n'importe quoi.
C'est ça,
Mais donc,
tout à fait.
voilà, quoi, il donne une autre version des choses, quoi, hein. Mais bon, sinon, pour rappeler pour les auditeurs, il y a eu une pétition, en fait, des astronomes belges, hein, qui ont dit, à l'époque de la vague, qui ont dit, bon, en gros, qui était une sorte de pétition sceptique, en disant, pour les médias, quoi, en disant, nous, on n'adhère pas à ce que vous racontez, on n'adhère pas à ce que la SOBEP raconte. Nous, on sait que le consensus scientifique sur les ovnis, c'est qu'il s'explique par des méprises. On n'a rien vu dans les données qu'on nous a données jusqu'à présent, des raisons de penser le contraire. Voilà, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques réactions, mais le problème, c'est que les médias ont été complaisants. Et puis, bah, je ne sais même pas, en fait. Hein, c'est difficile de se remettre à l'époque. Mais bon, les médias ont tendance à être complaisants, ça, on le sait bien, c'est pas nouveau.
Ouais, c'est le simple fait de relayer l'information sensationnaliste. Bah, ça crée une sorte d'effet d'épidémie comme ça au niveau des médias qui est C'est même pas être complaisant, mais c'est juste simplement réveiller
Ouais, et là, il
l'info.
faut dire qu'ils étaient quand même devant un groupe qui faisait vraiment particulièrement bien illusion, hein, parce que on avait un
Ouais.
groupe où le noyau dur, il y avait Mason qui était physicien à l'UCL,
Mmh.
Michel Bougard qui était chimiste, et je crois qu'il a fait un doctorat par là, mais je pense que c'était après la vague en histoire des sciences.
Mmh.
Donc je veux dire, si t'es un journaliste, tu te dis, bah oui, c'est un groupe légitime, il n'y a pas...
Ouais, c'est
T'as
ça, tout à fait.
pas, même, voilà, si t'es pas toi-même un scientifique ou quelqu'un qui a vraiment un fort background scientifique, là, comment ton voyant d'alerte aura tendance à beaucoup moins s'allumer que si ça avait été le groupe
Ouais,
lambda
ouais.
d'ufologues ou où il y a juste des
Mmh.
gens qui n'ont pas de formation scientifique, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ben voilà, donc j'ai un peu dit ce que j'avais à dire sur ce bouquin. Je pense que je dirais, si le sujet des ovnis vous intéresse, encore une fois, la vague belge, c'est un sujet très important. Parce que, aussi, il faut bien se rendre compte, oui, c'est vrai, ça, je l'aurais quand même dit. Je pense qu'au
Mmh.
niveau public, la vague belge est morte dans l'imaginaire collectif, quand Patrick Maréchal a révélé que la photo de Petit Richard était un faux, quoi. Je crois que maintenant, si
Ouais.
on parle de la vague belge autour de nous.
Ouais, c'est plus vraiment quelque
Pour
chose de
le
connu.
grand public, l'affaire est entendue, quoi.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, les ufologues vont dire oui, mais c'est pas parce que cette photo-là est un faux que la vague belge est expliquée. Moi, j'ai toujours tendance à dire oui, mais enfin, le fait que cette photo soit un faux, ça fout quand même un fameux coup à l'hypothèse exceptionnelle, parce qu'en réalité, il y avait la fameuse détection radar, mais ça, Mason s'était déjà rétracté dans le deuxième volume de VOB. Et puis, il y avait la photo de Petit Rochin. Et ça, c'est les quelques éléments solides et robustes qu'on avait, quoi. C'était vraiment les deux éléments clés. Il y avait l'une ou l'autre petites observations, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on va dire pour moi, c'est quand même les deux éléments majeurs. C'était la détection radar et la photo de Petit Rochin. La détection radar a été éjectée lors du deuxième volume de VOB. Et la photo de Petit Rochin est un faux. Et donc, on a une vague belge où, en gros, il reste plus que les témoignages, quoi. Ouais, mais s'il reste plus que les témoignages, voilà, quoi. D'un point de vue scientifique, la cause est entendue, quoi. Mais ceci étant dit, moi, je pense pour des gens qui s'intéressent au phénomène fortéen ou qui cherchent à expliquer le paranormal, il y a quand même beaucoup de choses qui restent à dire sur la vague belge, quoi, hein. Pour moi, la cause est entendue. Bon, à vrai dire, pour moi, la cause était entendue avant même la publication de la révélation de Patrick Maréchal, parce que quand tu lis bien les informations, bah, je me rendais. Enfin, pour moi, j'étais sûr que la photo de Patrick Maréchal était un faux avant même qu'il le révèle. Mais voilà, quoi. Bon, je pense qu'il y a encore des choses à dire sur le sujet, juste par curiosité scientifique, quoi. Et c'est un peu le sujet du volume, quoi. Mais maintenant, je pense que maintenant, juste pour être clair pour les auditeurs, c'est vrai que c'est quand même un volume amateur qui est fait par Patrice Serret dans son temps libre. La mise en page est pas toujours top top. Il fait du mieux qu'il peut. Mais encore une fois, si vous voulez avoir l'information, elle est dispo. 15 € que je dans ces heures-là, et vous avez tout d'un bloc. C'est vraiment l'idée, quoi. Voilà. Et alors aussi, pour les bonnes âmes, si jamais vous voulez soutenir le travail qu'on fait. Que Patrice serait fait, et puis bon, je pense que même si vous lisez pas le volume, vous pouvez toujours l'acheter. Je pense que le brave Patrice fait quand même du travail d'archivage des informations sceptiques qui a vraiment de la valeur, donc il faut peut-être l'encourager aussi, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Et moi, ça m'amène une question, en fait. Donc maintenant que ce livre, finalement, fait un peu le point sur toutes les infos importantes, passées et présentes, est-ce que tu penses que dans le futur, il y a encore des choses importantes à faire au niveau de l'ufologie pour le moment?
Moi, je pense que c'est comme tous les sujets. Enfin, il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est que de toute façon, en ufologie, il y aura toujours des nouveaux cas qui reviendront toujours relancer la controverse, quoi, hein. Donc, je dis toujours, le phénomène OVNI, c'est pas aux sceptiques à décider quand on ne doit plus l'étudier, c'est aux tenants, quoi. Tant que les tenants vont toujours se ramener, oh, on a un nouveau super cas que vous n'arriverez jamais à expliquer, ben voilà, quoi. Donc c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, il faut pousser la pierre et la remonter en haut de la montagne sans pleurer.
Tout à
Donc il y a
fait.
cet aspect-là. Et puis voilà, je pense qu'il y a quand même, d'un point de vue scientifique, des recherches à faire, encore et toujours. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à... Enfin, pour moi, la voie royale, c'est de l'étudier plus sous un angle psychologique et sociologique et historique que sous un angle science dure, quoi. Même s'il y a toujours une place pour les sciences dures, mais je pense que pour des historiens, il y a vraiment un travail tout à fait de documentation à faire. Bon, qui se fait un peu, mais on. Enfin, je suis quelques auteurs qui le font, mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a tellement à faire pour documenter le développement en fait de ce folklore ou de cette nouvelle religion. Et du côté psychologique, bah, il y a toujours des questions qui agitent un peu les débats sur les traits de personnalité des gens qui ont tendance à voir plus de l'un que l'autre, etc. Donc ça, c'est en psychologie anomalistique. Bah, c'est comme les sujets. Tous les sujets scientifiques, on a déjà pas mal d'infos. Je pense qu'on en sait beaucoup plus. Parce que c'est toujours le truc, hein. Les ufologues, ils disent, ouais, mais on sait rien sur le phénomène ovni. On en est à 70 ans d'études et on a fait aucun progrès. On ne comprend toujours pas le phénomène. Moi, je suis tout à fait contre ça. On sait plein de nouveaux trucs, quoi. Dans les années 80, on a découvert la personnalité inclinée à la fantaisie qui explique pas mal les enlèvements par les extraterrestres. Là, il y a eu plein de travaux par Loftus sur le syndrome des faux souvenirs. Ça, elle a fait des expériences clés dans le domaine qui expliquent aussi beaucoup les enlèvements par les extraterrestres. Enfin, en fait, on sait beaucoup plus de choses maintenant qu'on ne le savait dans les années 50. Hein.
Tout
Mais
à fait.
maintenant, c'est comme tous les sujets. En science, chaque fois qu'on répond à une question, ça ouvre des nouvelles questions. Donc, je dirais pas qu'on a clôturé le sujet, loin de là, quoi. Voilà, et alors, qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, à vrai dire, sinon, je pense que. Bon, la troisième réponse, c'est que je pense que de notre côté, à nous, Renaud Leclerc, qui a écrit la fameuse plaquette, il est décédé avant même la publication de la plaquette. Hein, elle a été d'ailleurs terminée par des membres du CNEGU et des gens qui gravitaient autour, parce que c'était en projet, quoi. Enfin, du côté de moi et de Marc Allais, de Roger Paquet, je sais pas trop Roger Paquet, mais en tout cas moi et Marc Allais, je pense qu'on est un peu on est un peu en fin de parcours effectivement. Donc je crois que c'est pour nous c'est un peu on a vraiment fait le tour, quoi. Pour moi d'ailleurs on avait fait le tour avant, mais c'était vraiment une question de diffuser l'information. Et donc ce volume-là, avec moi je suis vraiment très satisfait. Donc je pense que voilà, maintenant l'information est disponible aux gens de se faire leur propre opinion. Et puis voilà, quoi. Alors, ah oui, le dernier sujet qu'on voulait aborder avant de clôturer l'épisode, c'était le fait que, juste parler un petit peu du fait que j'allais à la Parapsychological Convention à Londres. Ouais, donc à Londres, c'est dans quoi maintenant? Un peu plus de 2 semaines, il y a la fameuse convention de l'association Parapsychological Association. Donc c'est l'association qui a été créée par Rhin. J. Behrine, le fondateur de la parapsychologie, hein. Je vais présenter un papier que j'ai écrit, qui s'appelle, c'est en anglais, mais qui s'appelle donc Ufologie et hallucination, une étude de cas. Voilà, donc ça, comme enfin, le titre est assez explicite, à mon avis. Voilà, je vais présenter juste pour raconter un peu aux gens. D'ailleurs, apparemment, les ufologues francophones s'excitaient déjà sur les forums, rien qu'à cause du titre, parce que, évidemment, parler d'hallucination dans le cadre du phénomène ovni, c'est un sujet tabou, on n'a pas le droit, c'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. Mais en fait, j'ai proposé ça parce que comme article, parce que. Même à la Parapsychological Convention, il y a quand même pas mal de. Il y a un pôle psychologie anomalistique qui sont quand même assez intéressés par la psychothérapie, des expériences exceptionnelles ou inhabituelles. Et donc j'ai proposé ce sujet-là parce que je pensais qu'il avait une bonne chance de passer le peer review. Et de fait, il est passé le peer review. Donc voilà quoi. Voilà, ça servait à rien de proposer un thème où ils allaient juste dire non, le thème ne colle pas à la conférence, quoi. Ouais.
Tout à fait, bah, ce sera certainement intéressant. J'espère qu'il y aura des infos qui seront publiées après, dont on pourra un peu prendre connaissance. Parce que moi, je serai en vacances en Italie à ce moment-là, donc je ne pourrai
Moi,
pas
je me doute que Londres, c'est pas
présent.
évident pour les gens à aller. Et puis, bon, c'est une conférence internationale,
Non,
t'étais
non.
en anglais.
Ouais, c'est ça.
Oui, en fait, la manière dont ça s'est fait, parce que je crois que j'avais reçu quelques questions sur. Enfin, c'est toujours des gens qui sont étonnés par rapport au fait que je collabore avec des parapsychologues. Hein, j'avais reçu comment dire, j'étais devenu membre en fait de la Parapsychological Association simplement parce que si on devient membre, on reçoit la publication, leur publication, qui est le Parapsychological Journal. Et donc j'étais intéressé d'avoir la publique, quoi, pour voir un peu ce qu'ils faisaient comme recherche, etc. Et donc j'étais membre, ça fait quoi, 2 ans que j'étais membre, juste voilà, comme ça je reçois. Enfin, pour moi, c'était plus une façon de m'abonner à la revue. Donc juste pour que les gens sachent, il y a deux grandes associations parapsychologiques dans le monde. Il y a la Parapsychological Association, qui est l'association américaine, et puis la Society for Psychical Research, la Société pour la Recherche Métapsychique, qui est la version qui est britannique. Donc oui, j'étais devenu membre de l'association américaine. À vrai dire, l'association britannique, j'aurais voulu devenir membre, mais je m'étais frité, je m'étais engueulé via Twitter avec le gars qui est derrière le compte Twitter du bazar et il m'avait banni de Twitter. Alors je me dis merde. Enfin, c'était les fameux débats autour de l'implication des sceptiques, enfin, juste pour la petite histoire, sur Wikipédia. En fait, les parapsychologues, ils sont tout à fait excités parce que, apparemment, les sceptiques contrôlent Wikipédia, hein. Ça, c'est le grand truc, quoi. C'était Rupert Sheldrake qui était monté la tête avec ça, quoi. Et je trouvais la façon dont cette information était véhiculée. Enfin bon, c'est parce qu'évidemment, les parapsychologues ne portent pas les sceptiques dans leur cœur, ça c'est clair. Mais ça me. Enfin, j'aimais pas du tout la façon. Parce que j'ai pas mal contribué à Wikipédia, je sais bien comment ça se passe. Il y a vite des guerres d'édition et tout ça. Et puis, bien entendu, qu'il y a des groupes qui contrôle un peu le bazar, mais moi, chaque fois que j'essaie de mettre une information sceptique sur les ovnis sur Wikipédia, après 2 secondes, il est édité par un ufologue qui passe par là. Enfin, ouais. En gros, la plainte qu'ils ont, on peut la voir pour n'importe quel groupe, quoi. Le fait que le sceptique a une tonalité globalement, que Wikipédia a une globalité globalement sceptique, c'est parce que la communauté scientifique en général a un point de vue globalement sceptique sur la parapsychologie, mais ça ils veulent pas l'admettre, quoi. Ils veulent croire qu'il y a une sorte de complot des sceptiques pour leur empêcher de.
Oui, alors que ce qu'il y a sur Wikipédia reflète juste l'opinion du plus grand nombre des intervenants Wikipédia.
Bah, c'est clair. Il n'y a pas vraiment moyen de faire une sorte de super conspiration derrière.
Non.
Mais voilà, et donc le gars sur Twitter de la SPR, il n'arrêtait pas de relayer ces genres d'infos en disant c'est foutu sceptique qui contrôle Wikipédia, blablabla. Et donc je lui avais envoyé des tweets en disant il faut arrêter de déconner, c'est pas vrai. Et donc je m'étais fait sauvagement, il m'avait sauvagement bloqué sur Twitter. Donc à cause de ça, je ne me suis jamais mis dans la SPR. Mais je vais le voir cet été, il sera certainement là, je lui dirai tu pourrais me débannir de ton compte Twitter, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là que tu dois. Mais c'est parce que pour lui, j'étais un vil sceptique qui contrôle Wikipédia, apparemment. Enfin, bref, ça c'était des petites histoires. Voilà, donc j'étais membre de la Parapsychological Association. Et puis en gros, quand c'est en Europe, ça doit être en tant que. J'étais évidemment membre étudiant, puisque je suis en train de finir mon doctorat là. Et donc, quand ils ont décidé une année sur deux, une année c'est aux États-Unis, l'autre année c'est en Europe, et donc c'était en Europe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé à Renaud Evrard d'organiser le peer reviewing des articles, et de l'événement de la Parapsychological Association. Et comme j'étais un membre étudiant et qu'on se connaît, il m'a contacté. Donc je lui ai donné un petit coup de main de ce côté-là, et puis il m'a dit si tu viens, faut que tu présentes un truc, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve à présenter un truc. Bon, j'espère que je me ferai pas lyncher. c'est comme l'année dernière où j'étais au Kaipan, le truc d'ufologie là. Chaque fois j'ai des réactions assez houleuses en face de moi, mais bon. Ça fait partie du sport. Moi, je suis convaincu qu'il faut présenter. Si on est sceptique, on doit faire des publications scientifiques sur le paranormal. Enfin, si on veut prétendre que la zététique est l'étude scientifique du paranormal, en tout cas. Donc, je joue le jeu, voilà. De toute façon, si c'est au lieu dans la salle, je veux pas réellement me faire lyncher. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus stressant pour moi, quoi, parce que je dois présenter des trucs. Mais enfin voilà, en plus c'est vrai, pour les gens qui veulent publier sur le paranormal, vous voyez, il y a moyen. En fait, pour moi c'était quand même intéressant de me dire, est-ce que je peux. L'année dernière j'avais proposé un article au CAEPAN, donc au GEPAN, qui est plutôt neutre, encore une fois, qui essaye d'être neutre en termes idéologiques entre les sceptiques et les tenants. Bon, Alors que pour moi, évidemment,
Ouais.
une organisation gouvernementale ne devrait même pas être neutre, elle devrait juste être sceptique. Enfin, ils essaient d'être neutres. Donc mon article était passé. Et puis ici, c'était intéressant. Voilà, c'était la Parapsychological Association. Je savais vraiment pas si mon article passerait. Bon, j'ai eu le peer review. Voilà quoi, j'ai eu des critiques qui me paraissaient très raisonnables. Je veux dire, j'ai eu des critiques. Mon article est revenu avec. Bon, l'article est accepté, mais avec des modifications. Mais j'ai absolument rien lu qui m'a paru déraisonnable, où j'étais vraiment d'accord avec les remarques qui m'ont été faites. Donc voilà. Donc c'est faisable de caser des articles à la Parapsychological Association.
Oui, tout à fait. C'est bien parce que c'est vrai quand on en plus quand on voit le programme de la convention, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont pas vraiment sceptiques,
Ouais,
quoi.
non, il n'y a absolument rien qui est sceptique, mais.
Voilà.
Mais j'essaierai de couvrir l'événement quand j'y serai, mais d'expérience, je sais bien, parce que j'ai déjà fait le Kaipan, j'ai déjà fait différents événements. En pratique, ce genre d'événements, même des conventions sceptiques, en pratique, ce genre d'événements, c'est quand même difficile pour moi de couvrir live parce que je suis très occupé, j'assiste à toutes les confs, et puis alors je dois essayer de faire des interviews pendant les breaks, mais il y a beaucoup de bruit, enfin l'un dans l'autre, c'est très chaud.
C'est
Les
compliqué.
podcasts qui couvrent les gros événements sceptiques, en général, ils suivent pas les événements. Ils demandent d'avoir une salle à côté, et puis font que des interviews, et puis ils n'assistent pas aux conférences. Mais ça, j'ai pas trop envie de faire moi-même. Donc, bon, j'essaierai certainement d'avoir peut-être 5 ou 10 minutes avec Renaud Evra pour lui demander comment ça se passe, vu que c'est lui qui a organisé le bazar. Mais c'est tout, quoi. Je préfère pas anticiper que j'arriverai à faire un épisode complet du balado sur le sujet, quoi. Même si dans l'absolu j'aimerais bien, mais sinon, juste, c'est pour ça que j'en profite pour parler avec toi de ça. Mon impression générale, puisque j'ai participé au peer review, pas en faisant du peer review, mais en aidant à trouver des reviewers comment dire, oui, c'est ça, à gérer quels articles aller chez quel reviewer pour pas partout, hein, c'est Renaud Effrard qui a fait le gros du boulot, mais enfin, moi je l'ai un peu aidé. Mon impression générale, c'est qu'ils essayent de faire ça très sérieusement. En tout cas, Renaud avait vraiment dans l'idée de faire du peer review qui tient la route, quoi. Ça, j'étais favorablement impressionné. Juste pour la petite histoire, moi j'ai soumis quelques articles à des sceptiques, il n'y en a aucun qui a accepté de reviewer l'article, quoi. Parce que bon, ils sont tous trop occupés. Moi, je sais pas, j'étais quand même un peu déçu parce que je sais pas non plus, tu vois, si c'est l'idée, ouais, c'est un truc de la Parapsychological Association, donc on veut pas le faire. J'étais un peu déçu parce que je me disais, bah oui, c'est la chance pour des sceptiques de donner leur opinion sur des publications scientifiques parapsy, quoi. Ils auraient pu très bien dire je lis l'article et je le casse, quoi. Tu vois?
Tout à fait.
Moi je leur offrais ça sur un plateau en disant et entre guillemets, à chaque fois que j'ai proposé de soumettre à un sceptique, j'ai demandé à Renaud, il était d'accord, hein, donc voilà quoi, il n'y a pas de non pas un.
Bah, ça rejoint à la conclusion qu'on a déjà fait souvent, que la parapsychologie, même si c'était au cœur du scepticisme à une époque, c'est un sujet qui n'intéresse plus les gens en France ou en Belgique, en tout cas pour le
Ouais, ils voulaient
moment,
pas
quoi.
prendre le temps de faire ça, quoi. Et sinon, globalement, dans les, j'ai, voilà, je regarde, j'ai eu l'occasion. La liste des membres de la Parapsychologie Association est disponible sur le site web. Hein, c'est pas une information cachée. Je l'avais pas vraiment examinée en détail, mais là, comme je devais trouver des peer reviewers, j'ai eu l'occasion de la lire en détail. Dans le tab, en fait, moi, le truc qui me gêne le plus, hein, dans la parapsychologie, c'est pas la parapsychologie en tant que discipline, dans le sens de, parce qu'on me demande toujours qu'est-ce que je pense de la parapsie. Enfin bon. Moi, je dis toujours, c'est voilà, c'est une discipline où on peut faire des publications sur l'étude scientifique du paranormal. Donc moi, je trouve ça bien. Mais c'est vrai qu'il y a
Tout
un
à fait.
énorme biais de sélection, en fait. C'est-à-dire que si t'es un sceptique, tu t'inscris pas à la Parapsychological Association, et si t'es un tenant, tu t'y inscris. Donc en gros, il y a que des tenants dans ce groupe. Mais est-ce que c'est la faute de la Parapsychological Association? Ça, j'en sais rien. Moi, je m'y suis inscrit. Ils m'ont jamais dit, oh, tu peux pas t'inscrire parce que t'es un sceptique, quoi. Et en fait, les sceptiques s'y inscrivent pas, quoi. Moi, j'étais assez choqué, mais par exemple, Chris French ou Richard Wiseman. Richard Wiseman, c'est différent parce que je pense qu'il s'est fait éjecter, mais c'est une autre histoire. On va pas rentrer là-dedans. Mais par exemple.
Oui, c'est tout à fait. Surtout que même sur le site de la Parapsychological Association, il y a un onglet scepticisme qui explique ce que c'est un bon sceptique et qui donne des exemples, en citant notamment Richard Wiseman pour des erreurs.
Donc bon voilà, je pense que oui, de toute façon voilà, je pense que pour moi c'était un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est une association scientifique, mais en fait, si on prend le même truc, mais au plus large, ben, si tu prends une association de psychanalystes, c'est la même chose, quoi. Tous les
Ah oui, tout à
psychanalystes qui
fait.
sont dans sont propres psychanalystes, et si tu es un défenseur des thérapies cognitives ou comportementalistes, tu vas pas t'inscrire à une association de psychanalystes,
Non.
quoi. Et donc, au congrès de
Non, c'est
psychanalystes, tu auras que des psychanalystes. Donc, en même temps,
ouais.
c'est ça que je me dis, quoi. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut leur jeter la pierre à ce sujet-là? C'est aussi un biais assez naturel, quoi. Mais il y a eu un sondage qui mettait, j'ai pas vérifié le chiffre avant qu'on enregistre, mais un sondage des opinions dans la Parapsychological Association, bah, 75% des membres pensent que le psy est prouvé au-delà de tout doute raisonnable, je pense, hein, quelque chose comme ça, quoi. Donc ça montre quand même l'opinion générale. Donc dans le fond, pour moi, c'est ça qui m'embête le plus, quoi. Je pense qu'il faudrait avoir plus de sceptiques dedans, quoi, parce que ça changerait la donne, quoi. Et ça répond aussi un peu à la question à pourquoi moi je m'y suis inscrit, en fait, hein. Mais qui dit, encore une fois, je veux dire, il y a des gens dedans dont je connais pas vraiment l'opinion, mais pour lire les critiques qu'ils ont fait des autres articles, tu te dis, ouais, ils sont quand même vachement sceptiques, parce qu'il y a quelques articles qui sont faits vachement défoncer par les reviewers. Donc, si ces gens. Parce que bon, 75%, c'est pas 100%, hein, non plus. J'étais agréablement surpris par certaines reviews qui étaient extrêmement critiques de certains articles, y compris des articles qui avaient été soumis par des stars de la parapsie, quoi, où le gars disait, statistiquement, ça vaut rien, ou il y a des grosses erreurs statistiques, etc. Donc voilà, il y a des bonnes choses, quoi. Il y a des bonnes choses. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. On a fait notre rien.
Tu nous raconteras.
Et toi, c'est quoi tes projets, tes futurs projets? Ah oui, enregistrer plus d'épisodes pour scepticisme scientifique, c'est vrai,
Oui, c'est ça. Je vais continuer à faire des épisodes avec des gens intéressants quand j'en
ce qui m'a
trouve.
fait rire, c'est
Ça, c'est
que tu
sûr.
as fait tous les Québécois, je crois que tu as commencé par faire l'intégralité des Québécois.
Mais c'est très drôle parce que c'était même pas un projet volontaire. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire tous les Québécois. J'ai vraiment pris des gens un peu au hasard comme ça. C'est l'actualité qui a fait que les trois personnes d'affilée dont on parlait étaient des Québécois. Puisqu'il y avait le pharmacien avec son nouveau livre, il y avait Denis Plouffe, ses articles sur la synergo qu'il a sorti il y a quelques semaines, et puis le nouveau podcast québécois. Mais c'est vraiment un hasard, mais c'est vrai que c'est trois Québécois d'affilée. Bah, en tout cas, ça sera sympa pour les auditeurs, parce qu'ils ont des accents quand même très drôles.
Ouais, non, c'est clair, les Québécois, c'est toujours amusant de les écouter. Mais en même temps, je pense qu'on doit avoir pas mal d'auditeurs au Québec, hein, qui pour
Oui, tout
pour
à
nous.
fait.
Mais c'est vrai que de toute façon, nous, entre guillemets, on a un accent belge. On dit nous
Ouais.
Nantes, donc.
Oui, c'est clair que pour eux, ça doit être aussi un fameux accent.
ouais. Bah ouais, c'est bien. Mais donc, c'est ce que tu disais, tu vas essayer de faire au moins un épisode par mois dans le futur,
Tout à fait.
ce qui me donnera bien un petit coup de main quand même, parce que c'est vrai que ça fait 6 ans, ça fait longtemps, quoi. Et comme j'approche vraiment de la deadline pour ma thèse de doctorat, je commence vraiment à être très très full, quoi. Normalement, je pense que je devrais la remettre pour octobre, quoi. Donc je suis dans la finishing line, et la ligne de termine, enfin voilà. Du coup, dans les mois qui viennent, je vais être vraiment très très occupé.
D'accord.
Allez, bah écoute, on se voit. Bon, ouais, de toute façon, on reste en contact, mais on se voit à Septico au pub de toute façon la prochaine fois.
Oui, il y a le truc sur les cerveaux. Toi, tu seras là à celui-là
Non,
ou?
malheureusement, je serai pas là parce que pour raison professionnelle. Mais donc, c'est vrai que on l'a pas mentionné, mais donc au mois de juillet, on a une sortie au Musée des sciences naturelles, et on a demandé un atelier sur le fonctionnement du cerveau avec une animatrice du musée. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. J'avais vraiment très envie d'y aller, mais malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir y aller. Mais en tout cas, si vous voulez aller à celui-là, il faut vraiment s'inscrire à l'avance, puisque là,
Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez nous contacter.
il y a une petite somme à envoyer aussi. C'est pas gratuit parce qu'il faut payer l'animation. Mais enfin, ça me paraît très raisonnable, quoi. Voilà.
Tout à fait.
Et ça, tant qu'on y est, la date, c'est le vendredi 23 juin, je pense. 23 juillet, je veux dire.
Ah oui,
23
c'est
juillet,
ça.
voilà,
C'est bien
vendredi.
ça. Non,
Ah oui,
24.
vendredi, oui. Le 24 juillet.
Vendredi 24 juillet, à
24
13h.
juillet en après-midi. Allez, à une prochaine, hein, comme ça. Ciao,
ouais.
ciao.
À bientôt. Bye bye.